Questions sur l'Europe. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Bonsoir, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tout le monde désormais les connaît, mais il faut les rappeler pour appréhender le drame qui se joue quotidiennement. Selon l'Office des migrations internationales, depuis 20 ans, 25 000 réfugiés ont trouvé la mort en Méditerranée en tentant de parvenir sur les côtes européennes. De tragédie en tragédie, entre l'Union européenne et les États, eh bien, on se rejette la faute. Mais d'indignation au reproche, tout le monde fait le même constat. Il n'y a pas de politique migratoire commune européenne, une absence totale de solidarité, bref, c'est le règne du chacun pour soi avec au sud l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Malte qui supportent seuls la défense de leurs frontières face aux vagues de migrants. Pourtant, les outils existent, ils sont modestes, voire dérisoires. Exemple Frontex, ce sont seulement 300 agents pour surveiller 50 000 kilomètres de frontières. Mais pour l'instant, personne ne parle d'intensifier les moyens. L'Europe est encore loin d'avoir une véritable armée de garde-côtes à l'américaine. Quant aux outils juridiques, ils existent également, mais bien souvent, ils ne sont tout simplement pas ou peu appliqués. Alors la question de la porosité des frontières externe mais aussi interne, sera sans doute au cœur du débat lors de la campagne des européennes en 2014. Les questions sont nombreuses. Faut-il renforcer encore plus les contrôles aux frontières? Faut-il être plus ferme face aux migrants? Faut-il réviser les politiques d'asile? Comment lutter aussi contre les trafiquants, les passeurs? Faut-il tout simplement aussi remettre en cause, certains le préconisent, la liberté de circulation des personnes? Alors ce soir, nous allons essayer de comprendre, d'analyser les raisons qui font que les Européens semblent bien démunis aujourd'hui face à cette vague migratoire et quelles sont les solutions qu'il est possible d'y apporter. Pour répondre à toutes vos questions, en direct du Parlement européen, Yannick Jadot, député du groupe des Verts, Niccolo Rinaldi, député italien du groupe libéral et Bruno Gollnisch, député français non inscrit. Quentin Dickinson est avec nous, il suit pour nous vos questions sur Internet.
Questions sur l'Europe. Stéphane Le Neuf sur France Inter.
Et tout de suite au standard au 01 45 24 7000, on retrouve Jean-Philippe. Vous nous appelez d'Aix-en-Provence, on vous écoute Jean-Philippe.
Allô, oui, donc je n'ai pas la radio là, je n'ai pas le retour. Oui, bonsoir.
Bonsoir Jean-Philippe.
Ma question était un problème de moyens et éventuellement une solution. Enfin, donc dans les moyens, si vous voulez, j'aime bien lire des livres à la fois sociologiques et d'économie politique, et notamment au problème de population. Or, il apparaît, le dernier livre que j'ai eu, c'est un livre qui s'appelle Chine-Afrique, si vous voulez, et on décrit très bien, ainsi que d'autres sources, le fait que dans 30 ans, c'est-à-dire en 2030, c'est-à-dire après-demain, si vous voulez, l'Europe va passer, enfin la grande Europe, si on va de l'Atlantique à l'Oural, qui va passer à peu près de 500 millions à 630 millions, mais les chiffres varient, mais enfin, disons, on va gagner peu, relativement peu. Dans le même temps, l'Afrique, qui actuellement fait à peu près 700 millions d'habitants, va passer, suivant les estimations, entre 1,2 milliard et 1,5 milliard. Donc, actuellement, les prévisionnistes pensent que l'immigration africaine vers l'Europe, qui est actuellement d'environ 3 millions d'habitants, risque de passer dans une fourchette de 9 à 15 millions de migrants. Bon. Ma question est double. Est-ce que l'Europe a les moyens actuellement d'accueillir des migrants en général pauvres, souvent sans bagage d'éducation et qui n'apportent que leurs bras pour l'essentiel à l'économie européenne? Et n'est-il pas plus intéressant pour l'Europe, comme pour les États-Unis, ce que fait les États-Unis et maintenant l'Australie, d'avoir une immigration choisie? Il faut savoir qu'aux États-Unis, notamment dans la côte est, dans la vallée des mers, vers Los Angeles, le tiers des entreprises qui vont réussir sont faits par des immigrants. Donc ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de choix. Donc ma première question, c'est le choix des immigrants n'est-il pas absolument vital pour l'économie européenne, sinon on va crouler sous des politiques d'aide? Allô?
Oui, on vous entend, oui. Jean-Philippe. Donc on a bien compris, votre question est double, en fait. Les moyens. Alors, Jean-Philippe, nos invités vont répondre d'abord à la première question. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens d'accueillir effectivement des migrants? Niccolò Rinaldi.
Il faudrait commencer par de moyens de volonté. Ça fait depuis 1999 le sommet de Tampere que l'Union européenne a décidé de se doter d'une politique d'immigration commune. On est toujours là. Hein. Et on fait du bric-à-brac, on fait du bricolage, on improvise.
Qu'est-ce qui a été décidé concrètement à l'époque ?
C'était décidé que l'Union européenne se serait dotée d'une politique d'immigration commune, sur la base d'un constat, donc notre écouteur nous témoigne l'actualité, c'est-à-dire que les mouvements de migration vont continuer, ce sera une perspective permanente des prochaines décennies. Et moi, j'ai même des données qui vont bien au-delà, hein, parce qu'il faudra considérer aussi qu'avec le changement climatique, il y aura de populations importantes, même d'Asie, qui essaieront de quitter leur propre pays pour rejoindre, entre autres aussi, l'Europe. Donc les moyens législatifs, pour le moment, on pourrait les mettre en place, parce qu'il ne faut pas penser que les moyens, c'est uniquement de questions financières. Hein. C'est vraiment une volonté de se doter de règles communes. Et pour le moment, on est un peu tous prisonniers par une sorte de volonté égoïstique. Bon, c'est pas vraiment mon problème, c'est un problème, oui, c'est une sorte de pitié collective, beaucoup de déclarations, mais finalement, vraiment très peu d'actions. Les problèmes n'a pas une solution facile, c'est évident. Mais l'Europe doit rentrer dans la logique que l'immigration, c'est un processus irréversible, que nous allons avoir des flux très importants et que des politiques d'accueil d'abord et d'intégration de l'autre côté doivent être mises en place, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Cela dit, doit être aussi combiné, lorsqu'on parle de moyenne, par une sorte de, je dirais, plan Marshall pour les pays de provenance.
Hein, combien... Mais est-ce qu'aujourd'hui, je voulais vraiment poursuivre la question de Jean-Philippe, sur les moyens, il y a les moyens législatifs, on va le voir, parce qu'il y a une multitude de textes législatifs depuis 20 ans sur l'immigration, mais est-ce qu'on a aujourd'hui tout simplement les moyens financiers aussi d'accueillir toute cette immigration ? Yannick Jadot, peut-être.
Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Notre auditeur, il parle d'une immigration qui serait une immigration de travail, qui serait une immigration économique, alors qu'on a commencé l'émission sur Lampedusa. Et une bonne partie des noyés aujourd'hui...
C'est la deuxième partie de sa question, c'est l'immigration choisie. Mais là, on reste sur les moyens pour l'instant, Yannick Jadot. Bah, a-t-on aujourd'hui les moyens, effectivement, d'accueillir une immigration massive ?
Mais la question n'est pas de savoir si on a les moyens d'accueillir une immigration massive, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique d'immigration, donc ceux qui veulent rentrer pour travailler sont obligés de rentrer de manière clandestine, soit en abusant du statut d'asile, de réfugié, soit en trichant. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement une politique d'immigration qui ouvre des portes de l'Europe, parce que de toute façon, ils viennent, et de toute façon, nous en avons besoin dans notre continent vieillissant. Moi, je préfère que l'Allemagne renforce une partie de son marché du travail avec des jeunes issus de l'extérieur de l'Europe, plutôt que d'aller chercher les jeunes Espagnols et de déstructurer aussi l'économie espagnole. Donc simplement, aujourd'hui, tous les rapports qui sont faits à l'échelle européenne comme à l'échelle française indiquent que l'immigration n'est pas un coût pour la société française, c'est un bénéfice pour la société française, pour les finances publiques comme pour les comptes sociaux. Ça n'est pas un coût pour l'économie, c'est un bénéfice pour l'économie. Vous avez dans certains métiers, l'immigration est complémentaire, elle ne se substitue pas aux salariés résidents. Dans la moitié des médecins qui exercent dans les zones défavorisées sont d'origine étrangère ou étranger. 60% des gens qui travaillent dans les sociétés de nettoyage sont d'origine étrangère. Donc on a besoin de cette immigration. Donc il faut arrêter de fantasmer le danger de l'immigration. En revanche, ce qu'il faut régler sur Lampedusa et ailleurs, c'est une vraie politique d'asile. Mais encore une fois, si on a une politique d'ouverture sur l'immigration, nous sortirons pour partie de la clandestinité et nous arriverons à bénéficier pleinement de cette immigration plutôt que de la refouler et d'en faire une histoire politique qui ne correspond pas ni à la réalité du coût économique ni à la réalité du coût financier.
Bruno Gollnisch.
Mais je suis un vieil habitué de ce Parlement européen, mais je suis quand même assez choqué par la rhétorique de mes collègues qui consiste à dire, mais c'est ce qu'on entend habituellement dans cette maison, de toute façon, n'est-ce pas, ces malheureux veulent venir, ils viennent, et comme on ne peut pas les en empêcher, eh bien, il faut organiser cette venue. Premièrement. Et puis d'ailleurs, comme vient de le dire en substance M. Jadot, si je ne trahis pas sa pensée, puis d'ailleurs, ça nous rapporte. C'est très bon. Tout cela est
ça fait
excusez-moi.
Dynamique, oui.
Excusez-moi, c'est absurde.
Ah bon.
C'est absurde. C'est chacun sait très bien que l'immigration ne peut plus être une immigration de travail dans l'immense majorité des cas, plus de 90% des cas dans un pays qui, comme la France par exemple, a 5 millions de chômeurs. Chacun sait très bien que, comme le disait votre auditeur, d'ailleurs, les gens qui viennent d'Afrique, etc., sont chassés par la misère. Alors ça, c'est un problème qu'il faut régler, mais qu'il faut régler autrement. On en parlera tout à l'heure, et qui ne sont, dont la force de travail, ils apportent leurs bras dans le meilleur des cas, mais le problème, c'est que nous n'avons pas d'emploi pour eux. Et il suffit, M. Jadot, de se promener du côté de la gare du Nord, de se promener au Mureaux, à Melun, à Trappes, dans les banlieues de nos grandes villes, etc., pour voir que la plupart de ces gens-là sont désœuvrés.
La mise en ghetto d'un certain nombre de populations, ça n'a rien à voir avec l'immigration.
Mais attendez, il y a monsieur, mais c'est vrai, et votre auditeur a eu raison de le souligner, il y a aussi un problème d'émigration maintenant en France, parce que les plus qualifiés de nos jeunes gens vont parfois à l'étranger. Alors évidemment, c'est une bonne chose pour la Silicon Valley, comme mentionnait votre auditeur. Je ne crois pas du tout que ce soit une bonne chose pour la France. Et puisque monsieur Jadot a pris cet exemple, il est très intéressant, celui des médecins. Vous avez dit très justement qu'une très grande partie des médecins qui exercent en France viennent de pays du tiers-monde. Il y a un certain nombre de chefs d'État africains, le président du Gabon, par exemple, qui a dit à Jean-Marie Le Pen, bah, écoutez, si un jour vous avez part aux décisions... de ce pays, faites en sorte, je vous prie, que les médecins gabonais dont nous avons financé les études et dont vous avez financé les études supérieures, nous avons financé leurs études primaires, vous avez financé leurs études supérieures, qu'ils reviennent en France parce qu'ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux... Non, excusez-moi, je termine juste sur ce point. Ils sont plus nombreux en France qu'au Gabon, où on aurait le plus grand besoin d'eux. Et ceci même, M. Jadot, à un moment où, de façon scandaleuse, depuis des années, on impose le numerus clausus, c'est-à-dire que des jeunes Français qui ont réussi leurs examens se voient refuser la possibilité de continuer leurs études médicales en France. C'est une politique monstrueuse.
Deuxième partie de la question de notre auditeur, c'était l'immigration choisie. Niccolò Rinaldi, est-ce qu'aujourd'hui, les Européens peuvent mettre en place une véritable politique d'immigration choisie?
Ils devraient. C'est une question que c'était débattu vraiment depuis d'années à Bruxelles. Et il est vrai que les Américaines, mais pas que les Américaines, je dirais que même les Chinois sont en train de commencer à faire une sorte de triage d'immigration choisie et sont en retard sur ça. Il y a plein de talents, mais même par les gens qui arrivent dans les refoulés de Lampedusa, qui ont des qualifications, donc nos sociétés ont tout à fait besoin. Il faut se rappeler que notre société est quand même une société démographiquement vieillissante. Avec une crise de natalité sur le chiffre global de l'Europe qui est quand même forte inquiétante. J'ai l'impression qu'à un certain moment, il y aura une sorte de véritable compétition au niveau planétaire pour réussir à attirer les meilleurs talents au niveau de immigrés. Et sur ce plan-là, l'Europe est en retard, c'est clair. Est en retard parce que nous faisons une très grande confusion. Hein. Nous mettons tous dans le même panier les migrants, d'asile.
Attendez, Bruno Gollnisch, vous dites l'Europe est en retard, mais depuis 20 ans, on a une succession de textes. Hein, je les reprends, je les ai sous les yeux, les accords de Dublin 1990. On a évoqué aussi la mise en place d'une politique migratoire commune dans le traité d'Amsterdam. Il y a Frontex qui a été créé en 2004. Il y a une directive qui a été votée ici en 2008, la directive retour du Parlement européen. Il y a le pacte européen pour l'immigration et l'asile, ça date de 2008. Il y a aussi les accords de Schengen. Et puis, il y a eu aussi une conférence euro-africaine à Rabat en 2006. Voilà, donc les textes, on les a. Et aujourd'hui, en 2013, on constate que c'est un échec, que l'Europe est démunie. Comment on peut arriver à avoir autant de textes législatifs et finalement ne rien faire au niveau communautaire ? Yannick Jadot.
Mais parce qu'on est au niveau européen dans le même état de débat qu'au niveau national. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gouvernements qui ne luttent pas sérieusement sur la question des inégalités, sur la question de la justice sociale, qui à partir du moment où ils ne traitent pas les inégalités sociales, ils en font des objets d'insécurité, ils valident les thèses que porte notamment M. Gollnisch sur le bouc émissaire, sur tout ça nous vient des étrangers, nous sommes une forteresse envahie, assiégée. À partir de là, il n'y a pas un gouvernement qui ose affronter la réalité, parce que la réalité c'est que effectivement nous avons besoin de migrants. Quand vous voyez les États-Unis qui rentrent dans en pleine crise et pour redynamiser l'économie, ils ont une nouvelle politique de régularisation qui justement veut donner de l'énergie dans la société. Et quand vous parlez des jeunes qui s'en vont, mais les jeunes ils s'en vont aussi parce qu'ils sentent notre société qui se replie sur elle-même, qui est sur des faux débats, qui se ferme, qui condamne socialement un certain nombre de jeunes parce qu'ils n'ont pas la couleur de peau
que vous voulez. Ça s'en va.
Mais si, monsieur.
Mais non, mais non.
Et laissez-moi finir.
Et donc, je veux terminer après Bruno Gollnisch.
Et donc, je veux dire qu'à partir de là, vous n'avez pas un gouvernement qui ose affronter la question de l'immigration de manière réaliste. Ayons aussi, l'Europe est une forteresse aujourd'hui qui n'a pas de porte d'entrée. Donc, effectivement, vous avez la confusion entre les réfugiés, ceux qui, légitimement, comme en Syrie, doivent obtenir un statut de réfugié politique, et puis la confusion avec les immigrés qui, pour venir, ne peuvent pas venir tranquillement à un guichet européen, dire voilà quelles sont mes compétences, j'ai envie d'entrer, je peux bénéficier d'un visa multi-entrée, et si je ne trouve pas du travail, je retournerai chez moi. Plutôt que d'être dans cette rationalité-là, on est dans l'idée que l'immigré, l'étranger est la menace absolue. Je voudrais simplement dire que, quand vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, je veux dire, pour les Français, la question de l'immigration n'est pas une question essentielle, mais elle perturbe, elle tord, elle vise complètement le débat politique aujourd'hui.
Bruno Gollnisch, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le chacun pour soi, en quelque sorte.
Oui, je voudrais... Oui, enfin, chacun pour soi et tout le monde laisse tout faire. Je voudrais être très clair. Je n'ai absolument rien contre la personne des immigrés. Je n'en fais pas le bouc émissaire. En revanche, je suis extrêmement sévère avec la politique qui est suivie par la majorité de ce Parlement, par les dirigeants politiques et économiques européens qui mettent en avant un discours soi-disant humaniste. C'est un peu celui que vient de nous tenir M. Jadot.
Mais concrètement, vous souhaitez que l'on referme totalement les frontières, que l'on bloque totalement les frontières ?
C'est totalement illusoire, je vais vous le dire. Mais parce que ce discours couvre des choses absolument abominables. Prenons un exemple, celui dont on discutait à l'instant, l'immigration choisie. Mais l'immigration choisie, c'est pire que tout. C'est la politique de je pèse mes mots, de négrier des temps modernes. Autrefois, les esclavagistes, ils sélectionnaient les esclaves sur leur constitution physique, s'ils avaient une bonne dentition, etc. Maintenant, avec l'immigration choisie, on va les sélectionner sur leur cerveau et sur leur formation. C'est-à-dire qu'on va prendre au pays du tiers-monde les gens les plus aptes, les plus instruits, ceux dont précisément ces pays ont besoin comme cadre pour leur développement. Autrement dit, en faisant cela, M. Rinaldi, vous allez aggraver le sous-développement du tiers-monde et vous allez aggraver la misère et vous allez aggraver l'émigration vers l'Europe de gens qui fuient précisément cette misère.
Nicolas Rinaldi vous répond.
L'immigration choisie est une réalité, d'abord. Hein. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en train d'inventer. Et le premier pas pour l'intégration.
C'est une réalité.
C'est le premier pas pour l'intégration. C'est-à-dire... Si nous pouvons accueillir et bien intégrer dans nos propres sociétés des gens qui ont quand même des fonctions qui sont tout à fait compatibles avec le marché de travail et qui ont des besoins de nos propres sociétés, je pense que nous faisons quelque chose de positif pour eux, pour leur propre destin et pour nos propres sociétés. Lorsque je dis que il faut faire de l'immigration choisie, je ne dis pas qu'il faut faire que de l'immigration choisie. C'est pas ça. Mais le problème, et Yannick Jadot l'a bien souligné, est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de façon de faire la différence. C'est-à-dire, si un Camerounais veut rejoindre l'Europe, il n'a aucun guichet où il peut démontrer qu'il a une possibilité de se bien intégrer dans nos propres sociétés, apporter quelque chose dont nous avons besoin, etc. Et ils arrivent tous dans les situations désastreuses telles que nous connaissons à Lampedusa. Lorsque s'il y aurait un peu plus de rationalité des États-Unis, il peut nous apprendre quelque chose sur ces plans-là. On pourrait commencer à résoudre ce genre de problème.
Vous citez les États-Unis qui sont effectivement un pays qui s'est construit par l'immigration. Vous oubliez juste une chose.
Et la France aussi, monsieur.
Oui, vous oubliez. Attendez, vous oubliez juste une chose. L'immigration aux États-Unis n'a pas été une bonne chose pour les indigènes, pour les Indiens d'Amérique qui ont été décimés, qui ont été exterminés, qui vivent dans des réserves. Et moi, je pense que la dénatalité que vous considérez comme un acquis, l'ouverture massive des frontières aboutit progressivement à la substitution de la population.
Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que
parce qu'il y a l'immigration, il y a une natalité mineure en Europe. C'est pas ça.
Retour au standard. Bruno Gollnisch, le débat continue. Retour au standard au 0145 24 7000 avec Yvon qui nous appelle de Lyon. Vous êtes dans Lyon, Yvon. Bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Une question en deux volets, si vous me permettez. Lorsque des étrangers sont sur un bateau en Méditerranée, dans des eaux internationales, par rapport à Bruxelles, est-ce qu'ils ont des droits ? Premièrement. Deuxièmement, lorsqu'ils rentrent dans les eaux nationales de l'Italie ou d'un autre pays, dans un pays d'Europe, est-ce que par rapport à Bruxelles et l'Europe, est-ce qu'ils ont des droits ? Parce qu'on en a beaucoup parlé depuis des semaines, mais je ne sais pas si les étrangers, quand ils ont des droits et s'ils ont des droits.
Yannick Jadot vous répond. D'abord, ce qu'ils sont dans les eaux internationales.
Dans les eaux internationales, le droit de la mer s'applique. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui une embarcation, normalement, il devrait y avoir, en plus, même si elle n'est pas en train de se noyer, vu l'état des embarcations, il devrait y avoir sauvetage. Et c'est bien la discussion que nous avons au Parlement européen, c'est la discussion qu'il va y avoir au sommet des chefs d'État et de gouvernement, c'est que Frontex, dont vous parliez tout à l'heure, ne soit pas simplement une agence qui refoule, mais une agence qui sauve aujourd'hui en mer. Quand ils arrivent sur le sol italien, l'Italie, comme les restes des pays européens, ont obligation d'étudier chaque dossier pour savoir s'ils sont des réfugiés ou pas. Mais si on a aussi une multiplication aujourd'hui des bateaux qui arrivent, c'est parce que pendant longtemps, on était bien content de gérer avec 10 dictatures les relations avec les immigrés. Enfin, faut se souvenir des accords de Berlusconi avec Kadhafi, où on laissait les immigrants africains se faire massacrer dans le désert, et ça nous arrangeait bien parce qu'ils n'arrivaient pas en Europe. Donc effectivement, avec la fin des dictatures, ça rebat un peu les cartes. Il y a aussi des trafics qu'il faut absolument combattre. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est, et la discussion qu'on a au Parlement, c'est qu'ils arrivent en Italie, mais il doit y avoir une responsabilité partagée. Il n'est pas question que les Italiens gèrent seuls les frontières, leurs frontières de l'Europe. Et il faut aussi que l'ensemble des pays européens partage la responsabilité de ces réfugiés, les accueille. Parce que c'est vrai que vous avez des pays européens qui n'ont pas de frontières sur la mer. Et donc, il faut aussi qu'ils assument leurs responsabilités.
Niccolò Rinaldi, ça, c'est une vraie demande des Italiens aujourd'hui. Malheureusement, elle n'est pas écoutée, notamment de la part de la France, de l'Allemagne, des pays nordiques.
Juste une précision, même avec Gheddafi, de toute façon, les immigrés arrivaient. C'est-à-dire, n'importe quel accord on fait avec un dictateur, c'est jamais une solution soutenable. Ce n'était pas du tout une solution soutenable. Je dirais qu'il faudrait un partage de responsabilités. Le patrouillement des côtes, c'est pas quelque chose que uniquement les pays du sud de l'Europe peuvent soutenir eux-mêmes. Frontex, c'est vraiment petit souris par rapport.
Oui, 80 millions d'euros, 300 agents, c'est ça pour ce que je disais tout à l'heure, 50 000 km de côte à surveiller, c'est dérisoire.
Et si on aurait vraiment un peu de courage, il faudrait avoir une garde côtière, une marine côtière européenne bien établie, vu que les frontières au sein de l'Union européenne désormais sont, notamment dans la zone Schengen, quelque chose d'extrêmement aléatoire. Il faudrait, sans aucun doute, un partage de responsabilités pour l'accueil, parce que recevoir des réfugiés à Lampedusa ou sur les côtes de la Sicile, c'est quelque chose de différent de recevoir des réfugiés qui arrivent au Danemark ou en Allemagne. Ils ont besoin de tout, hein, de l'assistance psychologique à bien d'autres, malheureusement, dans beaucoup de cas. Par contre, ce que j'ai dit souvent à mes propres autorités et aussi à nos propres médias, l'Italie doit quand même être une terre pas seulement de toute première accueil, mais aussi d'intégration de demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, l'Allemagne a quelque chose comme 6 fois le nombre de demandeurs d'asile qu'en Italie. La Belgique, 1,5 fois. Donc l'Italie, comme d'autres pays du Sud, il se prend en charge du toute première accueil dans des situations extrêmement difficiles.
Alors concrètement, c'est pour répondre très précisément à Yvon, il demande quels sont les droits lorsqu'ils sont dans les eaux nationales italiennes, comme ils pourraient être dans les eaux nationales françaises, mais au moins les eaux nationales italiennes, puisque c'est vraiment l'Italie qui est au front sur l'accueil des immigrants.
Bah, Yannick Jadot l'a dit, il y a quand même une droit de navigation de la mer, je pense qu'on dit comme ça, le droit de la mer, tel qu'il faut les sauver. C'est un droit, le droit d'être sauvé.
Alors en revanche, effectivement, sous le gouvernement Berlusconi, il y a une loi qui a été votée qui pénalise en quelque sorte les pêcheurs s'ils vont les sauver, s'ils vont les chercher. C'est un problème.
Le gouvernement Berlusconi a fait une sorte d'illusion, de magicien, c'est-à-dire il a introduit le crime d'immigration clandestine, donc c'est interdit. Et vu que c'est interdit, on va résoudre les problèmes comme ça. Ce qui a créé toute une série de situations tout à fait paradoxales, dans le sens que le pêcheur qui sauve d'immigrés qui sont à risque d'être noyés, ils font leur propre devoir par rapport au droit de la mer, mais ils pourraient être punis si on démontre que finalement, ils les ont pas seulement sauvés, mais même amenés sur la côte italienne. Je dois dire que c'est un cauchemar juridique. Aucun pêcheur n'a jamais été puni, sanctionné par un tribunal, parce qu'il s'agit vraiment d'un paradoxe législatif. Mais c'est encore une fois la démonstration de comment une sorte d'acte de législation ne résout simplement rien par rapport à une situation d'effet qui est bien plus compliqué de la volonté d'un législateur d'annuler les problèmes par décret.
Bruno Gollnisch, rapidement, on ira au standard.
J'ai été avocat international, je suis officier de marine supérieure de réserve, et j'ai conduit le premier, comme président de notre groupe parlementaire, avec le Front National et d'autres formations, j'ai conduit le premier groupe à Lampedusa. Nous avons été sur les navires de la marine italienne qui portent secours à ces gens-là, et aussi dans les centres où ils sont ensuite hébergés. Bon, les navires n'ont aucun droit. Ce ne sont pas des navires qui sont immatriculés, qui battent pavillon, il n'y a pas de droit particulier, mais il y a un devoir, comme mes collègues l'ont dit, évidemment, un devoir humanitaire. La non-assistance à personne en danger est punie. Et quoi qu'en dise mon collègue italien, aucun pêcheur n'a jamais été sanctionné, enfin, vous l'avez reconnu d'ailleurs, pour avoir porté secours à des gens qui étaient en train de se noyer. Et la marine italienne elle-même vient à leur secours. Mais je ne voudrais pas que l'arbre nous marque.
Je m'excuse. Oui. Il y a eu quand même deux pêcheurs tunisiennes avaient sauvé des gens et qui les avaient amenés parce que la côte italienne est plus près. Et leur bateau, il a été séquestré pendant 4 ans.
Parce qu'on les considérait comme des
passeurs.
Parce que la limite avec les passeurs était difficile à établir. Mais je voudrais demander à mes collègues, s'ils posent en principe, n'est-ce pas, au-delà de toute émotion, même légitime, s'ils posent en principe que quiconque veut arriver en Europe, sans y avoir au départ ni droit, ni titre, sans passeport, sans autorisation, mais que tous ceux qui veulent arriver en Europe, par un moyen quelconque, doivent y être reçus, doivent y être hébergés, doivent ensuite pouvoir s'y installer.
Est-ce que quelqu'un a dit ça? Nous avons parlé d'un politique européen avec des consulats européens dans les pays d'émigration,
Bruno Gollnisch,
où les gens pourraient déposer une demande de rechercher du travail.
Mais votre formation politique prend toujours la défense des illégaux.
Bruno Gollnisch, sans prendre la défense de quiconque, est-ce qu'effectivement, ça ne serait pas mieux effectivement, d'avoir des portes communes d'entrée pour accepter ou refouler les gens, tout simplement, plutôt que d'avoir un chacun pour soi dans tous les États?
C'est ce qui était prévu au départ. L'Europe devait avoir une frontière sur sa périphérie. On établissait
les accords de Schengen,
libre... Mais même pas les accords de Rome, le traité de Rome. Il y avait liberté de circulation et d'établissement de travail pour, par exemple, les Français pour aller en Allemagne ou vice-versa. Bon, mais il devait y avoir, bien évidemment, une protection à la périphérie. Or, le dogme de la libre circulation des êtres humains, des marchandises et des capitaux, qui est le dogme mondialiste auquel souscrit la majorité de ce Parlement, fait que maintenant, ça s'ouvre.
On est tous d'accord.
Ça s'ouvre à une immigration planétaire.
Est-ce qu'ils sont obligés de prendre un bateau pour venir? Arrêter de dire qu'il y a libre circulation.
On est tous d'accord, au moins sur une chose. On est tous d'accord, au moins sur une chose. Bruno Gollnisch et Yannick Jadot, on est tous d'accord, au moins sur une chose. Bruno Gollnisch, on va retourner au standard. Bruno Gollnisch, on va retourner au standard. 01 45 24 7000. On retrouve Henri de Normandie. Bonsoir Henri, on vous écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Bon, en partie, vous avez déjà répondu à la question que je voulais poser. Simplement, moi, je m'intéresse à la cause des choses. Finalement, il est bien évident que les Américains, les Anglais et nous-mêmes intervenons en Libye, détruisons ce pays en grande partie, et nous ne contribuons absolument pas à l'édification d'une démocratie ou à la restructuration de ce pays. D'autre part aussi, il y a eu de nombreux Érythréens qui sont venus s'échouer et mourir à Lampedusa dernièrement. Qu'est-ce que l'on fait comme pression sur le gouvernement de l'Érythrée aujourd'hui? Et d'autre part aussi, il y a tous les méfaits des multinationales qui appauvrissent tous les pays du tiers-monde en s'accaparant leurs richesses plutôt que les habitants puissent en bénéficier. Donc intéressons-nous, pourquoi il y a tant de gens qui veulent venir chez nous? Moi, j'envisage absolument pas d'aller vivre ailleurs. Si des gens se déplacent, il y a bien une cause. Donc vous en avez parlé à différentes reprises dans cette émission, mais voilà, la cause est là.
Alors Henri, on a très bien compris votre question, la cause, mais aussi comment on négocie, effectivement, au départ, avec les gouvernements dans des pays en guerre. Yannick Jadot, c'est vrai que c'est le vrai problème, c'est peut-être au départ qu'il se passe.
Vous ne négociez pas avec des pays en guerre, je veux dire, il ne faut pas raconter d'histoire.
Alors
vous avez entre le Liban et la Jordanie aujourd'hui, vous avez quasiment 1 million de réfugiés sur des tout petits pays. Donc ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une situation de guerre, vous avez des pays qui doivent assumer, malheureusement, de manière humanitaire, les effets collatéraux de ces guerres. Vous avez quasiment 500 000 réfugiés en Jordanie. Le président Hollande a annoncé 500 réfugiés syriens en France. Vous voyez là, en fonction de la richesse du pays, de la taille du pays, la disproportion. Mais là où l'auditeur a raison, c'est que on a des pays qui, aujourd'hui, dans un monde globalisé, voient, par toutes les séries télé qu'on leur vend, voient la façon dont on vit, parfois de façon idéalisée, et se disent « Pourquoi moi, je n'accéderai pas à ce niveau de qualité de vie ?» Et donc, y compris quand on va prendre leurs ressources halieutiques avec nos flottes, quand on pille leurs ressources naturelles, nous participons du mal développement de ces pays, et donc forcément, à un moment, et se développant mal, ils cherchent simplement les moyens d'améliorer leur vie. Donc tant qu'on n'aura pas aussi engagé des vraies politiques de développement et déjà d'arrêter de nuire dans ces pays-là, c'est sûr qu'on aura du mal. Mais tant qu'il y aura une égalité sociale telle dans le monde, on ne pourra pas empêcher les flux de migration. Mais rappelons-nous que 90-95% des flux migratoires, c'est de pays du Sud vers d'autres pays du Sud.
Question sur Internet, Quentin Dickinson, beaucoup de monde aussi vous nous écrit.
Oui, absolument. Et c'est un thème qui ne laisse personne indifférent ce soir. Les réactions, d'ailleurs, sont assez contradictoires, assez empreintes d'émotion. Jean-Jacques à Paris, par exemple, me dit « Est-ce que finalement la baisse du renouvellement démographique que l'on constate en Europe ne peut être compensée que par l'immigration ?» Parce que le déclin démographique, dit-il, c'est le déclin tout court.
Évidemment.
Marielle Attrape nous dit « L'immigration, c'est le cas des réfugiés qui fuient la guerre, la persécution, la famine, mais c'est aussi le cas de personnes qui recherchent simplement le moyen de gagner plus d'argent que chez eux. Ce n'est pas la même chose, nous dit-elle. L'Europe doit accueillir les premiers et refuser l'immigration simplement économique. » Malika Arras, « Monsieur Gollnisch, c'est pour vous, tenez. Monsieur Gollnisch est contre l'Europe, mais il doit se rendre compte que l'immigration est une question européenne qui ne peut être réglée qu'en commun au niveau européen. » Dominique, qui est médecin, nous dit « Sans l'immigration en France, eh bien, il faudrait fermer un grand nombre de maisons de retraite et d'hôpitaux publics, car 80% des personnels ancillaires sont des immigrés. » Enfin, Jeanne, à Bruxelles, a entendu que le commissaire européen aux affaires intérieures veut déployer une force permanente en Méditerranée, de l'Espagne à Chypre, c'est une citation. Est-ce que son rôle est d'empêcher l'immigration clandestine ou alors de s'occuper du sauvetage en mer des clandestins?
Bruno Gollnisch, le constat fait quand même, on ne peut pas avoir de réponse nationale, il n'y a qu'une réponse européenne.
S'il n'y a pas de réponse européenne, il faut revenir évidemment à des réponses nationales, mais de toute façon, l'immigration n'est pas un problème européen, c'est un problème planétaire. comme d'ailleurs l'ont dit un certain nombre d'auditeurs et même mes collègues. C'est un problème planétaire. Est-ce donc il faut en prendre la mesure. Mais ce qu'ont dit les auditeurs est très vrai, aussi bien en ce qui concerne le fait que nous avons contribué à détruire l'État libyen, que nous tolérons une situation abominable en Érythrée, que ce qui a été dit même par M. Jadot sur les ressources du tiers-monde est exact. Et j'ajouterais, contre l'immigration choisie, nous pillons aussi les cadres du tiers-monde, alors que nous privons nos jeunes diplômés de travail, ce qui est une politique insensée. Il y a un auditeur qui a demandé, par exemple, est-ce que la seule réponse au déclin démographique, c'est que c'est l'immigration? Je dis, si nous laissons à d'autres le soin de faire des enfants à notre place, nous avons perdu nos droits à terme à vivre libre sur la terre de nos aïeux. Ça paraît très clair. C'est ce que nous enseigne l'histoire universelle.
Bruno Gagnon,
je crois qu'il faut. Pour terminer, qu'il faut établir. Monsieur Jadot aussi a dit quelque chose de très juste. Vous voyez, il a dit il y a un certain nombre de gens qui sont attirés par le mirage, en quelque sorte, de notre mode de vie. Mais nous contribuons à noyer des gens à Lampedusa en leur faisant miroiter cela par notre système social. Qui ne réserve pas la préférence aux nationaux.
On n'est pas dans une situation où on contribue à noyer les gens. Yannick Jadot vous répond.
Non, rappelons qu'en France, l'immigration contribue davantage aux comptes sociaux qu'elle ne crée un
mais
déficit.
Mais non, elle coûte 70 milliards. Elle coûte 70 milliards par an.
Non, c'est plus 12 milliards sur les comptes sociaux européens. C'est pas grotesque, ce sont les chiffres officiels. Oui, oui. Maintenant, si on écoute ce que vous dites, la France et l'Europe n'auraient jamais dû se développer comme elle s'est développée, en bénéficiant de la mondialisation, et il faudrait interdire aux dizaines de milliers de jeunes Français qui ont envie de s'épanouir dans la mondialisation, qui vont au Canada, vont ailleurs.
J'ai fait un doctorat au Japon.
Si j'appliquais votre règle, on aurait dû vous interdire d'aller au Japon
c'est une bonne objection. C'est une très bonne objection.
La mondialisation, la diversité des cultures est une source d'enrichissement. Oui, vous avez plein de migrants qui ne viennent pas uniquement pour fuir la misère, ils viennent simplement parce qu'ils sont passionnés par l'Europe.
Mais et Yannick
abîme l'image de la France, l'image des entreprises, parce que l'image de la France, c'est l'art de vivre, la rationalité, et ce que vous portez, l'histoire des boucs émissaires,
on arrive au terme de cette émission.
Il n'y a pas 20 millions de Français au Japon.
Le débat continuera en dehors de cette antenne. On arrive maintenant au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe ici pour la réalisation technique. Dans quelques instants, il sera 20h. Vous êtes sur France Inter. Bonsoir.
C'était Questions sur l'Europe, une émission dirigée par Stéphane Leneuf avec Quentin Dickinson. Nicolo Rinaldi, Yannick Jadot et Bruno Gollnischt répondaient aux questions. Attachée de production Marie-Claude Malartic, assistée de Thibaut Manchon-Bonneau. Réalisation Laurane Thomas.